Dans un instant, l'homme de conviction du jour, Henri de Beauregard, qui est avocat et qui va soutenir l'avocat Éric Dupond-Moretti, avocat d'Abdelkader Merad. Et pourtant, je les connais tous les deux, ils ne se ressemblent pas.
On de la traconte sur Europe 1.
Il est 6h30 dans On de la traconte, le programme de la prochaine demi-heure. Dans un instant, l'homme de conviction du jour, Henri de Beauregard, et on va parler de l'art de défendre et du métier d'avocat. Juste après, le journal du Monde de Sophie Larmoyer qui va nous raconter une histoire de paysan du Rajasthan en Inde qui s'enterre jusqu'au cou. Elle va évidemment nous dire pourquoi. Et enfin, les fourberies de Benjamin Muller. Mais dans l'immédiat, le rappel des titres de l'actualité, Isabelle Millet.
Et 18 mois après le scandale des Panama Papers, nouvelle révélation sur l'argent caché dans les paradis fiscaux. Près de 400 journalistes du monde entier ont enquêté. On parle cette fois de Paradise Papers, des grandes entreprises ou des personnalités qui ont pratiqué l'optimisation fiscale. Et parmi les noms cités, notamment celui de la reine d'Angleterre ou encore des proches de Donald Trump et de Justin Trudeau. La tuerie dans une église du Texas, 26 morts. Le tireur, un ancien militaire, s'est donné la mort. Il a probablement agi en raison d'un différend familial. Sa belle-mère fréquentait cette église. Le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires, décerné à Éric Vuillard pour L'Ordre du Jour chez Actes Sud, un livre entre romans et histoire qui retrace les coulisses de l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938. Le prix Renaudot a lui été attribué à Olivier Guèze pour la disparition de Joseph Mengele chez Grasset, le récit des dernières années du médecin tortionnaire d'Auschwitz. Un mot du temps, demain le froid sera de retour avec de nombreuses gelées le matin, temps souvent sec, ciel très nuageux dans le nord-est, mais bien ensoleillé entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et dans le sud-ouest. En Méditerranée, Mistral et Tramontane souffleront un peu moins fort et déjà une nouvelle vague pluvieuse arrive par la pointe bretonne. Les températures demain après-midi, 5 à Saint-Étienne, 7 à Belfort, 9 à Lille et à Lyon, 10 à Paris, 11 à Bordeaux et 16 à Nice.
Merci à vous Isabelle. Ah, c'est un débat vieux comme le monde que nous allons avoir maintenant. Est-ce qu'on peut défendre tout le monde? C'est même un débat de base. Est-ce que je pourrais être l'avocat d'Adolf Hitler? Je pense que toutes les écoles du barreau en France ont planché là-dessus. Bonsoir Henri de Beauregard.
Bonsoir Christophe.
Vous êtes avocat vous-même, vous venez régulièrement vous asseoir à ce micro pour défendre une idée, et il y a cette polémique qui court depuis le verdict du procès d'Abdelkader Merah sur le comportement et la réussite incroyable d'Éric Dupond-Moretti à cette audience qui obtient que son client ne soit pas condamné pour complicité d'assassinat et qui le défend pendant un mois comme un chien. A-t-il eu raison, Henri de Beauregard, de défendre Abdelkader Merah comme un chien?
Bien sûr. Bien sûr. J'ignore tout du dossier d'Abdelkader Merah, donc je ne dirai rien du fond. Mais j'ai suivi, comme vous, comme tout le monde, les polémiques autour de la manière dont la défense avait été exercée. Je dois dire que le procès qui a été fait dans le procès, en quelque sorte, à la défense, est un bien mauvais procès. D'abord parce que on a contraint en quelque sorte Éric Dupond-Moretti à dire pourquoi il avait accepté de défendre, ensuite comment, à se justifier de comment il défendait. Et en fait, derrière toutes ces questions, on lui a même demandé combien il aurait touché pour défendre. Enfin, on s'est allé très loin.
Il a répondu 12 000.
Hein. Il a d'ailleurs répondu. Je suis pas sûr qu'il ait eu raison de le faire, mais peu importe, il l'a fait. Derrière ces exigences et ces questions, en réalité, c'est l'existence et la possibilité même d'une défense pour Abdelkader Merah qui était mise en question. Parce que, en définitive, pendant le mois de ce procès que j'ai suivi une fois encore comme tout un chacun, ce que j'ai vu, c'est qu'il faisait ce qui est l'essence de la mission de l'avocat, c'est-à-dire qu'il apportait une contradiction, qu'il questionnait des unanimités, qu'il bousculait des certitudes, qu'il rappelait du droit aussi, puisque la complicité, ça a une définition juridique que, évidemment, l'opinion publique ignore et qu'elle, à vrai dire, qu'elle se vante, ou en tout cas qu'elle revendique ignorer, puisque ça n'est pas sur ce terrain-là qu'elle se place. Si notre société considère un jour que la guerre qu'elle mène au terrorisme rend insupportable qu'on lui apporte cette contradiction, alors elle le dira, elle fera une exception, mais tant qu'elle ne l'a pas dit, il me semble que le fait que la défense vienne apporter une voix qui vienne dire non, ou qui vienne de temps en temps dire mais à une accusation, il me semble que c'est sa mission et que c'est aussi son honneur. En le rappelant au tribunal, elle le rappelle aussi au peuple français, qui est celui au nom duquel la cour d'assises spécialement composée vient juger. Et elle vient rappeler au peuple français, à la rumeur, que en réalité, une audience pénale, un procès pénal, ça n'est pas un défouloir collectif. Voilà, qu'un accusé, ça n'est pas un nom de famille, ça n'est pas un hashtag sur Twitter, qu'une audience, ça n'est pas la minute de la haine du meilleur des mondes, avec le portrait de celui sur lequel on viendrait tous cracher, qu'une audience, c'est du droit, qu'une audience, ça sont des éléments de preuve, qu'une audience, c'est un homme et ce qu'il a fait, mais que ce qu'il a fait, pas ce qu'on dit qu'il a fait, pas ce qu'on voudrait qu'il ait fait, et l'horreur du crime ne se substitue pas à l'exigence de cette preuve. C'est cela que la défense a mission de rappeler, elle l'a fait avec le talent que chacun accorde à Éric Dupond-Moretti, avec une sobriété médiatique qui d'ailleurs tranchait singulièrement avec celle d'un certain nombre de ses confrères.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne parle pas aux journalistes pendant un mois de procès.
C'est
pas
ça.
Un mot aux marches du palais comme ça se fait traditionnellement.
C'est ça, et je crois que de ce point de vue-là, il a bien fait et que ça témoignait d'une conscience aiguë, j'allais dire, des enjeux de ce procès et de la sobriété qu'ils exigeaient. Et je crois que la déception au final qui est suscitée par la condamnation doit questionner moins le rôle de l'avocat de la défense et d'Éric Dupond-Moretti en l'occurrence que celui des autres acteurs au procès, et en particulier de ce qu'on a fait espérer parfois et à la population et aux parties civiles d'une société qui voudrait désormais offrir un coupable à la hauteur de chaque drame, et on sait bien qu'à la hauteur d'un drame pareil, il n'y a pas de coupable qui puisse être offert, d'une société qui se faisant entretient des espoirs chimériques, des transferts de haine sur celui qui n'en mérite probablement pas tant, quel que soit le caractère condamnable de l'idéologie qu'il professe par ailleurs. Le procès, ça n'est pas cela, ça n'est pas satisfaire une déferlante émotionnelle, ça n'est pas non plus, j'en aurais terminé, une catharsis. On a fait beaucoup de mal avec cette idée que le procès était là pour reconstruire les victimes, pour permettre aux victimes de faire leur deuil, etc. Moi, j'ai jamais vu des victimes se reconstruire avec un procès, j'en ai vu en souffrir, souhaiter que ce procès ait lieu, être content qu'il ait eu lieu, mais pour autant, on a créé de la souffrance, on a généré de la souffrance. Les victimes ont tous les droits. Ce qui est problématique, c'est les commentateurs. Éric Dupond-Moretti avait raison aussi sur ce point. Les commentateurs et d'autres auxiliaires de justice qui n'ont pas tous été d'une responsabilité à hauteur de leur mission.
Alors, c'est un débat passionnant et je voudrais que s'y joigne celui qui va maintenant réagir en direct, Maître Mehan Amouhou, qui est avocat de la famille d'Imad Ibn Ziaten, l'une des victimes de Mohamed Merah, qui était donc avocat partie civile à ce procès. Vous êtes là, maître ?
Oui, je suis là, merci.
Que pouvez-vous répondre à Henri de Beauregard ? Avez-vous vous-même d'ailleurs été choqué par l'attitude d'avocat de la défense d'Éric Dupond-Moretti à ce procès ?
La famille Ibn Ziaten a été choquée. L'avocat que je suis, on a l'habitude effectivement des joutes oratoires, du contradictoire, mais du point de vue des victimes, c'est dramatique, ça a été dévastateur, parce que la chronique est tout à fait intéressante. Il n'y a pas de débat pour moi. Le droit de la défense, c'est un pilier du droit. Personne ne le discute et personne ne le remet en cause. Même à Nuremberg, les nazis ont eu des avocats et le procès s'est passé dans des conditions de dignité et de respect des droits de chacun. Mais là, ce n'est pas tant le fond du droit qui est remis en cause, c'est la méthode. C'est-à-dire que des victimes sont sorties du procès en pleurs. Parce qu'effectivement, non pas parce que des mots injurieux avaient été prononcés, mais la défense n'a pas respecté, si vous
mais,
voulez, la sérénité.
Mais Maître Mouhou, si je peux vous faire remarquer, c'est assez courant que des victimes soient secouées par les avocats de la défense à des procès pénals. Hein.
Non, mais c'était pas ça, c'était sur la sérénité et, si vous voulez, l'apaisement nécessaire et la dignité du débat. Parce que, vous savez, les victimes sont rentrées dans ce procès, ça fait 5 ans qu'elles attendent la vérité, ce qui est normal, mais une victime, des victimes, surtout les victimes de terrorisme, attendent de l'humanité également. Et lorsqu'on rentre dans le procès et qu'on traite, par exemple, le président de la cour d'assises de paranoïaque, ou même qu'on s'adresse à l'avocat général en lui disant « elle », et le président rappelle la défense que c'est madame l'avocat général, et pourquoi pas celle-là ou pourquoi pas l'autre, vous voyez que c'est cette méthode-là qui qui fait du mal aux victimes, parce que les victimes ne comprennent plus rien. Ils se disent, mais c'est quoi ce vacarme ?
Mais quand Dupond-Moretti dit, j'ai cru comprendre que c'était aussi ce que disait Henri de Beauregard, que le procès d'assises n'est pas fait pour rassurer les victimes, ça n'est pas son objectif, il est de rendre justice, point.
Oui, mais il y a un principe directeur dans le cadre de la procédure pénale, et c'est la police de l'audience, c'est le président qui a la police de l'audience, c'est ce qu'on appelle la dignité des débats. Vous savez, la parole, elle doit circuler entre la partie civile et la défense, mais elle doit circuler dans le respect. Vous voyez, dans le contradictoire, dans le respect.
Henri de Beauregard veut répondre.
Si la police de l'audience... Enfin, je comprends mal. En fait, vous êtes en train de dire que la police de l'audience n'a pas été correctement assurée à l'occasion de ce procès ?
C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a eu un débordement et le président de la cour d'assises a rappelé à l'ordre à plusieurs reprises, mais on se sentait qu'il était absolument débordé. Du coup, il y a des victimes, et moi je vous le dis, qui ne sont des victimes, hein, ne sont pas revenus au procès. Et à tel point que l'avocat général, à un moment, a indiqué à l'avocat de la défense d'arrêter son cirque. Mais vous rendez compte, Imad Ibziaten, qui est mort debout, alors que Mera, lorsqu'il pointait son arme sur lui, lui a demandé de se mettre.
Mais tout ça est très éloigné de mon propos. Le problème n'est pas, et d'ailleurs pas celui de Mohamed Merah.
Je vais vous mettre assez d'accord tous les deux. Vous terminez votre phrase et on en a répondu.
Est-ce que vous pensez que la famille avait besoin d'entendre des choses qui sortent du cadre normal de... Moi, c'est sur la forme, c'est pas sur le fond. Les droits de la défense, c'est sacré, bien évidemment. Donc on déplace le débat, en fait. On déplace le débat. Vous savez, dans la société française, c'est acquis que même le pire des criminels a le droit à un avocat, je veux dire. Le peuple français est suffisamment mûr. Il comprend tout ça.
Il n'y a pas de débat. Maître Mou, merci d'avoir accepté ce débat contradictoire à l'instant avec Henri de Beauregard, que j'ai déjà vu, lui aussi, défendre son client comme un chien. Et c'est un sacré chien que celui qui est en face de moi. Merci à tous les deux, Maître Méana Mou, et merci Henri de Beauregard. Dans un instant, le journal du Monde de Sophie Larmoyer. Et pourquoi donc les paysans du Rajasthan s'enterrent-ils dans un trou jusqu'au cou ?
On de la traconte sur Europe 1.
Nous sommes un quart d'heure avant 7h et c'est l'heure de Sophie Larmoyer. Bonsoir à vous.
Bonsoir
Sophie.
Christophe.
Votre journal du Monde, ce soir vous allez nous raconter le combat des fermiers indiens de l'état du Rajasthan au nord-est de l'Inde. Ils sont menacés d'expropriation et ils ont choisi une méthode assez radicale pour se faire entendre. Ils s'enterrent dans leur champ.
Voilà, exactement. Ça donne des images plutôt surréalistes. Imaginez des dizaines de trous creusés dans un sol sablonneux. Parfois, ça ressemble même à des tranchées. Et dedans, des hommes et des femmes dont dépassent juste la tête et le haut du corps. Sans manger dans cette terre qui les nourrit, ils y ont même fêté Diwali, la fête des Lumières, le mois dernier. Plus de 1300 personnes s'y sont relayées sans discontinuer.
Ah, c'est pas 2-3 paysans.
Jour et nuit. Ah non, jour et nuit, ils se relaient depuis le 2 octobre. Date très symbolique pour le début de ce combat de la dernière chance. Puisque c'était l'anniversaire du Mahatma Gandhi, les fermiers s'inspirant des méthodes non violentes de Gandhi pour manifester leur colère.
Pourquoi est-ce que vous dites que c'est le combat de la dernière chance ?
Parce que ça fait des années déjà que le gouvernement régional essaye de déloger ces fermiers du village de Nindar, à une vingtaine de kilomètres de la capitale du Rajasthan, Jaipur. Comme partout, la ville grossit et les autorités veulent construire 6000 logements. Mais pour 2500 familles à Nindar qui vivent de l'élevage et du maraîchage, ces terres sont vitales. Le gouvernement a réussi à obtenir certaines parcelles, mais en offrant des compensations absolument dérisoires, sur la base d'une estimation des terrains anciennes et erronées, certains champs cultivés y sont inscrits comme stériles, des hameaux n'y figurent pas. En plus, une nouvelle loi de 2013 qui fixe des règlements d'indemnisation très précises n'a même pas été appliquée. Bref, pas question de lâcher pour les petits fermiers.
Alors est-ce que ça a une quelconque efficacité de s'enterrer jusqu'au cou dans son champ ?
Eh bien oui, ça marche. Leur mouvement qui dure depuis un mois a marqué les esprits, attiré la sympathie du public, attiré l'intérêt des médias, au-delà du Rajasthan. Et nous d'ailleurs, on en fait partie.
Oui.
Et donc, les autorités ont fini par accepter la semaine dernière de rouvrir les négociations sur la base d'une nouvelle estimation des terres qui va être réalisée. C'est une victoire d'étape pour ces agriculteurs qui restent vigilants. Et c'est en tout cas un exemple de combat parmi beaucoup d'autres en Inde contre la politique d'acquisition des terres par les autorités.
Notre deuxième histoire nous emmène en Allemagne où se trouve Hélène Kohl. Bonjour à vous, Hélène. Il y a un anniversaire remarqué aujourd'hui en Allemagne, c'est l'anniversaire de la Trabant qui a 60 ans.
« Effectivement, oui.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Allô,
voilà, c'est le moteur dotant de la Trabant, évidemment, on l'a reconnu là. Et ça, la Trabant, la Trabi, c'est la petite Madeleine de Proust de millions d'Allemands, 60 ans aujourd'hui, effectivement. Et depuis ce matin, on a sur Twitter énormément de gens qui se souviennent de ce pot de yaourt à roulettes de leur jeunesse et qui lui rendent hommage. Hommage aussi sur la chaîne de télé régionale MDR ce soir, qui fait une soirée thématique spéciale Trabi, avec la rediffusion de deux films cultes, Go Trabi Go 1 et 2, et aussi une émission de crash test. Alors on va enfin savoir si cette voiture est inusable, comme disent ses fans, qui prennent un malin plaisir sur le net à égratigner les grandes marques de l'Ouest, hein, avec leurs modèles à scandale, les rappels de modèles à cause de défauts de fabrication ou de moteurs truqués, clin d'œil très net à Volkswagen, Daimler et les autres.
Alors au total, je crois qu'il y a 3 millions de Trabants qui ont été produites en République démocratique d'Allemagne, donc la partie communiste de l'Allemagne, jusqu'en 1991. Il y en aurait 35 000 aujourd'hui en circulation. C'est un gadget quoi pour les touristes aujourd'hui?
Oui, effectivement, la plupart du temps, quand on les voit défiler en colonne serrée dans le centre de Berlin, c'est les fameux Trabi Safari. C'est assez amusant, il faut le dire. Mais il y a aussi encore beaucoup de particuliers au volant de ces voitures, parce que quand on a attendu 15 ans pour en avoir une, eh ben, on y tient. Hein. C'était le délai moyen dans cette RDA communiste qui manquait cruellement de matières premières, hein, pour les pneus, les pièces, etc. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le moteur des Trabi était entièrement démontable par des néophytes. Il fallait que l'automobiliste puisse se débrouiller tout seul en cas de panne. Ça donne lieu à plein d'anecdotes assez amusantes sur Twitter. Un internaute raconte le véritable marché noir qui s'était développé autour des pièces de rechange. Son père avait même un jour échangé une place à l'opéra de Dresde contre une pièce qui lui manquait.
Ça va plus loin peut-être que la nostalgie. Il y a un peu de fierté dans ces commémorations.
En tout cas, une étude très sérieuse qui vient de sortir, et les économistes sont formels, la Trabi est encore une manne pour sa région d'origine, le sud de la Saxe, parce que les ouvriers fabriquaient absolument tout à la main et ils ont réussi à conserver un savoir-faire industriel qu'on a perdu ailleurs en Europe. Et du coup, après Stuttgart, c'est dans ce petit coin isolé le long de la frontière tchèque qu'on compte le plus d'usines de voitures en Allemagne, BMW, Opel, Volkswagen et même Porsche.
Merci à vous Hélène Kohl en direct de Berlin. En bref, la compagnie finlandaise Finnair, Sophie Larmoyer, va mener une enquête.
Ah oui, pendant quelques jours, elle va demander à un certain nombre de passagers s'ils acceptent d'être pesés. L'objectif, c'est de mettre à jour leurs données sur le poids moyen des Finlandais, qui paraît-il a pas mal augmenté ces dernières années, et ça pourrait modifier l'équilibre des avions, plaide Finnair. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 58% des adultes du pays sont en surpoids. La compagnie veut recueillir ses propres statistiques, ça va être sympa à l'aéroport.
C'est le hareng, ça fait grossir le hareng, enfin surtout la sauce qu'il y a autour du hareng, voyez-vous. Dans un instant, Benjamin Muller et ses fourberies.
On de la traconte sur Europe 1.
Benjamin Muller, présent.
Bonsoir.
Ça va bien. Vous avez écouté radios et télévisions toute la journée. Alors.
Oui. Alors, il est comment Donald Trump en vrai? Cette question a été posée sur France 2 à Gaspard Ganzer, c'est l'ancien monsieur Com de François Hollande, qui raconte cette anecdote savoureuse. Le tout premier appel téléphonique entre les deux hommes, entre Donald Trump et François Hollande, juste après l'élection de Trump.
Trump commence à déverser une série de compliments sur la France, de poncifs, et il finit, c'est absolument incroyable, il finit par lui dire « J'ai quelque chose à vous demander, monsieur le président, est-ce que vous auriez des collaborateurs à me conseiller pour constituer mon équipe ?» Parce qu'il dit « Oui, vous connaissez beaucoup de monde, vous êtes président depuis quelques années, oui. Vous avez dû rencontrer des gens, et là on se dit c'est pas possible, c'est une blague, il se moque de nous, quoi. »
Voilà, vous imaginez si Hollande, il lui avait fait une vanne, il lui avait refourgué, je sais pas moi, Michel Sapin et Stéphane Le Foll. Là, on aurait rigolé. Mais ça ne s'est pas passé. Alors Donald Trump, quel est son véritable problème? Écoutez Michel Onfray, ce matin sur LCI.
C'est un petit garçon, mais la société américaine est une société d'enfants. Ce sont des gens qui mangent des pop-corn, qui sont devant leur télévision, qui jouent avec des armes à feu, qui sont dans cette espèce de simplicité. Il a 12 ans d'âge mental, c'est-à-dire que c'est un enfant roi.
Voilà, Michel Onfray qui s'en prend à Trump, même si d'habitude, sa cible préférée, ça reste quand même plutôt Emmanuel Macron, à qui il aime en mettre plein les dents. D'où cette question, à force, est-ce que vous ne craignez pas des représailles venant du clan Macron?
Non, mais moi je m'en fous. Ouais. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Un contrôle fiscal? J'en ai vraiment rien à foutre. Alors donc qu'il fasse des contrôles fiscaux, moi je suis un homme libre. On peut pas me virer, je suis pas payé par l'État, je n'ai pas un poste planqué au CNRS, on peut pas m'attaquer sur ce terrain-là.
Voilà, un contrôle fiscal, même pas peur. Peut-être devrait-il avoir un peu peur, on y reviendra.
Alors, Macron, justement, 6 mois après son élection, quel bilan? Les médias se sont tous posé la question ces jours-ci.
Oui, faire le bilan d'un président 6 mois après son élection a autant de sens que de commenter un plat qu'on n'a pas encore goûté, mais bon, les médias sont content, il joue au jeu du bien, pas bien. Sur Radio Classique ce matin, l'écrivain Philippe Tesson a tenté d'expliquer pourquoi les Français n'aimaient déjà plus Emmanuel Macron.
Pour l'instant, encore une fois, ils sont déboussolés. Ils sont non seulement parce que fait Macron, mais parce qu'il a précédé et qu'il a provoqué ce que fait Macron. C'est-à-dire la faillite totale du système, du vieux système.
Voilà, si Macron est impopulaire, c'est à cause de ses prédécesseurs. Fallait bien sûr y penser. On reprend un peu de Tesson, ça vous dit?
Ah ouais.
Allez, cadeau.
Qu'est-ce que la République a été d'autre depuis, je parle de la troisième à quatrième du ministre Jean-Cas, c'est-à-dire depuis un siècle et demi.
Pardon, c'est quoi la date?
Je vous promets, il n'y a aucun montage. Vous avez remarqué, il réussit. C'est la seule personne au monde qui réussit à parler normalement, mais dans un rythme accéléré, ce qui est très rare.
Troisième à quatrième du ministre Jean-Cas, c'est-à-dire depuis un siècle et demi.
Ah, génial!
C'est fort. Du coup, je me suis demandé ce que ça ferait, On de la raconte, en version Philippe Tesson. Et devinez quoi? Bah, ça aurait de la gueule.
Des traces de coups subsistent sur le thorax et sur le haut du crâne. Donc il est mort, étranglé, étouffé. Après,
je trouve que ça dynamise un peu. Vous devriez essayer, franchement. Pas mal.
Petit fourbe.
Bon, parlons d'une chose essentielle. Parlons style et physique de nos hommes politiques.
Oui, hier, Manuel Valls était l'invité du Grand Rendez-vous animé par David Doucan sur Europe 1. 10h59, dernière question.
Merci Manuel Valls d'avoir été notre invité ce matin au Grand Rendez-vous. Juste un tout dernier, mais très brièvement, vous avez changé de look, ça a été observé par tout le monde. Il y a un message particulier, très brièvement.
Vous ressemblez.
D'accord, me ressemblez. Très bien. Merci Manuel Valls.
Voilà, vouloir ressembler physiquement.
Mais personne ne sait que David Doucan a la barbe, il faut le dire.
Oui, c'est ça, absolument.
Et courte.
Vouloir lui ressembler, c'est quand même une drôle d'idée. Édouard Philippe a lui aussi parlé de sa plastique sur C8, répondant cette fois aux questions d'enfants.
Moi, on se moque tout le temps de ma taille parce que je suis petite de taille. Est-ce que vous, on se moque encore de votre taille?
Non, pas trop. Mais en revanche, quand j'étais petit, on se moquait de mes oreilles. Parce que j'avais les oreilles décollées. Ça me rendait assez malheureux, à vrai dire. Et après tout, il faut s'accepter comme on est.
Mais oui, acceptons-nous comme on est, arrêtons de déprimer. En parlant de ça, pourquoi le mois de novembre est-il le mois le plus déprimant de l'année? Parce qu'il fait froid, parce qu'il fait nuit, mais pas que. Nadia Dam, 6h55 ce matin sur Europe 1.
Et novembre est aussi un mois éprouvant pour des raisons exogènes. D'abord, il commence avec la Toussaint, hein, veille du jour où l'on commémore les défunts. Et c'est vrai que débuter un mois sur la tombe de mémé, c'est festif. Pour ce qui est des autres célébrations, elles sont à peu près aussi joyeuses. En novembre, on célèbre la journée mondiale de la vasectomie, celle de la pneumonie, ou la journée nationale contre l'herpès.
Eh, la journée contre l'herpès, cette journée piquante, comme on les aime.
Bon, on parle foot pour terminer, oui. Parce qu'hier, quand même, les amateurs de beaux jeux et de fair play ont été ravis par la victoire de Lyon face à Saint-Etienne 5-0.
Avec à la toute fin du match un joueur lyonnais, Nabil Fekir, qui marque un but, il chambre les supporters stéphanois. Eux n'aiment pas ça, ils envahissent la pelouse, ça fait un gros bins. Donc, même Stéphane Guy, le commentateur sur Canal+, le diffuseur qui doit donc vendre un maximum la Ligue 1 et vendre un maximum le génie du foot, même lui est dépité.
Évidemment, nous, les passionnés de foot, on viendra au stade, on adore le foot, Eric, mais c'est à vous dégoûter du foot, hein, ce qui s'est passé cette semaine en France entre Guimarães, Marseille et ce soir Saint-Étienne-Lyon. Ça renforcera tous ceux qui pensent que c'est un sport de beauf.
Un sport de beauf, il est au bout du rouleau. Disons que c'est pas vraiment un sport de beauf, ça a juste un peu moins de grâce et de légèreté que la danse classique, voilà tout. Toujours à propos de foot, anecdote merveilleuse dans Y'a pas Péno, l'émission de Thomas Touroud sur Europe là aussi tout à l'heure. Son invité, l'acteur Nicolas Duvauchel, qui est un fan du PSG, raconte le jour où il a croisé dans les tribunes du Parc des Princes un autre fan du club, Nicolas Sarkozy.
Un jour vous le croisez au Parc des Princes, il veut vous serrer la main et vous lui mettez un vent.
Oh, je mets un petit flip-flap là, un petit.
C'est
virgule
là. C'est vrai. Sauf que ce petit flip-flap, la petite crampe, ouais, le petit vent, ouais. Ben vous l'avez payé parce que qu'est-ce qui s'est passé 15 jours plus tard?
J'ai eu un petit redressement fiscal comme ça.
On y revient.
Et voilà, comme je vous l'avais dit. Ouais. J'espère que Michel Onfray a bien entendu le message.
Ça viendra.
Pas trop le malin, ça viendra.
Merci Benjamin. Dans un instant, Frédéric Tadei prend la suite et avant ça, la météo.